Merci. J'appelle le docteur, le professeur Vallon à venir nous rejoindre, ainsi que le professeur Dubois, puisque vous le savez, maintenant, ça va être un temps spécialement dédié aux questions et à vos questions et aux réponses que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas, c'est un moment où vous pouvez noter ces questions. Moi, j'en ai une, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je voudrais vous demander pourquoi il passe, on le voit, hein, parfois 15 ans, 20 ans, là, on voit les premiers médicaments, entre guillemets, arriver, les premières molécules. Pourquoi autant de temps ?
Pourquoi autant de temps ? Eh bien, parce que, si vous voulez, il faut, effectivement, vous avez raison, la question est intéressante. À l'aube des années 2000, il y a un modèle Alzheimer qui a été monté, qui a été mis en place chez les souris. Et les premiers anticorps monoclonaux ont été développés sur des modèles de souris qui produisaient des lésions amyloïdes. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir cette image absolument fantastique où on a vu ces lésions disparaître du cerveau de la souris. Et donc on s'est dit, en 2000, ça y est, on y est. Et on s'est rendu compte que de passer de la souris à l'homme, la souris des hommes, et bien finalement c'est extrêmement complexe parce que les réactions liées à les réactions immunologiques liées à ces anticorps monoclonaux ont amené des questions scientifiques extrêmement complexes, et on est dans cette stratégie de trouver, si vous voulez, des méthodes pour éviter la toxicité de ces médicaments et pour n'avoir que l'effet positif. Et c'est vrai que l'effet positif a été observé très très tôt. Donc on est dans le développement de médicaments nouveaux et qui sont potentiellement agressifs pour le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il va... Et ça prend du temps, ça prend du temps. Mais on est en train de maîtriser cela. Sachez-le quand même, les médicaments qui sont actuellement en développement, dont je viens de parler, ont quand même des petits risques, hein, des petits risques de lésions. Donc il faut être très très prudent dans le développement de ces médicaments.
Professeur Vallon, vous voulez intervenir? Non, je crois... dit
Oui, je crois que tout a été principalement dit. C'est-à-dire que si la science s'est allée très vite dans la découverte de cibles, la découverte grâce à l'immunothérapie et au génie moléculaire qu'on est capable auquel on est capable d'avoir accès maintenant, donc d'avancer très vite, le passage ensuite vers l'homme doit absolument prendre le temps nécessaire. Et quand on est un patient, quand on a une famille de patients, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Ça, c'est bien normal et je pense qu'on doit l'entendre. Mais néanmoins, il ne faut pas aller trop vite. Pour deux raisons. La première, c'est que si on va trop vite, on risque d'avoir des designs, donc des réflexions sur le type d'étude qui n'est pas adapté à ce qu'on veut montrer. Et donc, et c'est toujours moi quelque chose qui me taraude personnellement, écarter des molécules potentiellement intéressantes sur lesquelles on ne reviendra probablement jamais. Et donc, ça serait une perte définitive pour l'humanité. Et puis, à l'inverse, comme l'a souligné le professeur Dubois, faire fi d'un risque qui n'est pas totalement maîtrisé et de s'apercevoir 5 ans, 10 ans, 15 ans après la mise sur le marché d'un médicament, qu'en fait, il est potentiellement dangereux. Et des exemples, malheureusement, comme cela, il y en a dans d'autres maladies.
Voilà, donc, un certain nombre. Alors, on va prendre les premières questions qui nous arrivent. Y a-t-il un lien entre développement de la maladie d'Alzheimer et personnes atteintes de cancer, notamment hématologiques ? Je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre.
Je vais amener ma réponse. Non, le lien direct, il n'y en a pas. Le seul point, c'est que des facteurs de comorbidité multiples peuvent intervenir, et donc des familles qui sont parfois éprouvées par un contexte de maladies néoplasiques ou d'autres maladies par ailleurs, qui vont potentiellement favoriser l'expression des lésions. C'est-à-dire que la maladie n'ira pas forcément plus vite au niveau des lésions, mais les lésions vont s'exprimer plus vite. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Alors, il y a quand même eu des publications qui ont été intéressantes. On a étudié chez les individus avec une plainte cognitive le lien avec le cancer, et donc notamment l'étude Memento, et il n'a pas été mis en évidence de sur-risque majeur chez les personnes qui avaient eu un antécédent de cancer par rapport à la maladie d'Alzheimer.
Une pathologie très courante. Alors, une question sur l'Alzheimer et les antidépresseurs. Faut-il, oui ou non, prescrire des antidépresseurs à un malade ?
Quand les sujets sont déprimés, il faut prescrire un antidépresseur. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, la dépression avant la maladie d'Alzheimer. Effectivement, il y a des arguments épidémiologiques qui montrent qu'il peut y avoir une petite augmentation de fréquence de la dépression avant la survenue des symptômes. ce qui lui a même fait dire que ça pouvait être un terrain favorisant. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, est-ce qu'il y a au cours de la maladie d'Alzheimer des réactions dépressives? Ça peut arriver, ce n'est pas forcément la règle, loin de là, parce que chez ces patients, il y a deux éléments qui ne doivent pas être confondus avec les patients. Premièrement, il faut savoir que la plupart du temps, ces patients ne sont pas conscients de leurs difficultés, c'est la première chose, donc ce n'est pas aussi douloureux que l'entourage peut le penser pour le patient lui-même. Et deuxièmement, il peut y avoir une apathie primaire qui est fondamentale, qui est liée à la maladie, indépendamment de tout contexte dépressif. Donc il ne faut pas se méprendre, c'est pas parce que le sujet ne fait pas grand-chose qu'il est dépressif. Cela étant, comme je vous l'ai dit, la dépression peut apparaître au cours de la maladie, peut-être réactionnelle ou peut-être liée elle-même aux lésions. Et donc, il faut traiter la dépression, bien sûr, mais en faisant attention, car il y a deux types d'antidépresseurs, pour faire simple. Il y a des antidépresseurs qui sont très efficaces, mais qui ont un gros inconvénient, c'est qu'ils bloquent le système cholinergique et peuvent entraîner des confusions mentales. Ce sont ce qu'on appelle les imipramines, les mipramines, et les antidépresseurs classiques. Et il y a, heureusement, de nouveaux antidépresseurs qui n'ont pas ces effets secondaires, qui sont malheureusement un peu moins efficaces, mais qui mettent à l'abri de ces effets secondaires. Donc, pour répondre précisément, oui, il peut y avoir une dépression au cours de la maladie d'Alzheimer, oui, il faut la traiter, mais en choisissant des médicaments qui sont pas agressifs. Et troisième point, bien dissocier apathie, c'est-à-dire manque d'entrain, manque d'énergie, manque de volonté à agir, et dépression, sont deux choses qui peuvent être totalement dissociées chez le patient. Et quand vous avez un sujet qui vous paraît, quand vous avez dans votre famille un patient qui vous paraît comme ça, apathique, il suffit de lui poser la question tout simplement, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es malheureux, est-ce que tu as envie de pleurer, etc. Et il vous répondra de façon assez simple, oui ou non, et s'il dit non, vous pouvez être rassuré, il n'a pas de dépression.
Alors justement, une autre question, on va dire un peu le pendant, le fait d'avoir pris... Après, il y aura des questions qui s'adresseront aussi au docteur Vérard. Là, on les trie un petit peu. Le fait d'avoir pris des médicaments antidépresseurs ou des benzodiazépines, est-ce que ça peut influencer le développement de la maladie?
Oui, alors effectivement, moi, je rejoins effectivement tout à fait le professeur Dubois. Et les antidépresseurs traitent la dépression, ne traitent pas forcément autre chose, mais traitent la dépression. Donc effectivement, un patient dépressif qui est atteint par la maladie d'Alzheimer peut bénéficier d'un traitement antidépresseur. Il peut également... bénéficier d'un soutien psychologique qui sera aussi intéressant pour lui. Concernant les benzodiazépines, effectivement, on a maintenant des messages de prévention en disant qu'ils sont mauvais pour la mémoire, mais qu'ils peuvent aussi également entraîner chutes, etc. Et donc, effectivement, il faut essayer d'en limiter au maximum la prescription. Ce qui est un petit peu compliqué, puisque il y a 20 à 30 ans, ces médicaments ont été prescrits à grande échelle, avec une accoutumance physique, psychique, dont il est parfois difficile de se défaire. Et il n'est pas rare de voir arriver effectivement à la consultation des patients un petit peu groggy, KO, avec des plaintes cognitives. Et puis quand on regarde sur l'ordonnance, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de traitements psychotropes. Mais après, il faut s'armer de patience et avoir tous les arguments pour convaincre le patient qu'il faut déjà essayer de diminuer au maximum ces traitements-là avant d'arriver à pouvoir interpréter des tests ou une plainte. Voilà.
Alors, on a beaucoup de questions qui nous arrivent. Là, ça montre, peut-être professeur Vallon pourrait répondre. Pourquoi la maladie touche majoritairement les femmes ?
Alors ça, c'est une vaste question qui probablement était un peu surévaluée. Alors il y a plusieurs éléments de réponse, des éléments épidémiologiques, comme l'âge est le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. On ne l'a pas rappelé, puisque moi je parlais de génétique, mais ça reste le facteur de risque numéro un. Plus on vieillit, au plus on a de risque d'avoir la maladie, eh bien il faut avoir l'opportunité de vieillir. Et donc, il fut un temps, il y a quelques années encore, l'espérance de vie des hommes était plus faible que l'espérance de vie des femmes. À l'heure actuelle, ces espérances de vie se rejoignent, et cela explique une partie du fait que le risque est en train un petit peu de se rééquilibrer. Mais ce n'est pas le seul facteur. Le deuxième facteur tient à ce qu'on appelle la réserve cognitive. Alors moi, je n'aime pas trop ce terme-là, je préfère parler de résilience. En gros, mais vous verrez souvent le terme réserve cognitive, l'idée c'est de se dire que lorsqu'on a eu des éducations plus longues, avec la possibilité de plus stimuler le cerveau, eh bien, on va mieux résister à la maladie. Mais le terme réserve cognitive, pour moi, supposerait qu'on a un stock et qu'on perd ce stock au fur et à mesure, ce qui est un petit peu, enfin, c'est pas exactement la physiopathologie. La résilience serait plutôt l'idée qu'on peut résister mieux aux lésions. Bref, mais peu importe, c'est le même mécanisme. Et eh bien, je vous apprendrai pas ici que pour les tranches d'âge nées dans les années 20, 30, 40, 40 et jusqu'à 50, eh bien, il y avait une claire différence dans les profils d'éducation et les niveaux socio-professionnels entre les hommes et les femmes. Et donc là encore, un deuxième phénomène qui accentue le risque pour les femmes de développer la maladie. Là encore, les carrières changent, l'éducation des jeunes filles après les années 50-60, et ça s'est largement accentué depuis, font que maintenant, ce risque est aussi en partie en train de se rééquilibrer.
Alors, une question qui dit depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de malades entre 50 et 60 ans. Est-ce que la maladie progresse plus vite que sur les personnes malades âgées ? Pourtant, on diagnostique de plus en plus tôt. Quelle cause ?
Comme toujours, quand on a l'impression qu'il y a plus de patients, c'est aussi avant tout parce que probablement qu'on est plus sensible et que donc du coup, on est capable de les identifier plus souvent, qu'il y a aussi des campagnes d'information comme celle d'aujourd'hui, hein, qui probablement il y a 20 ans n'aurait jamais existé. Et donc du coup, ça offre l'opportunité de pouvoir faire des diagnostics plus précis. Ensuite, pour la notion d'évolution, c'est vrai, c'est compliqué à étudier globalement entre la découverte de la maladie avec les premiers symptômes et le décès, c'est pas nécessairement une évolution très différente. C'est vrai que par contre que les stades auxquels les patients vont passer lorsqu'ils sont plus jeunes, on a parfois l'impression que ça avance plus vite. Est-ce que c'est en partie lié justement à ces phénomènes de résilience qui font que du coup on a une compensation qui dure plus longtemps et qui à la fin, quand elle ne tient plus, lâche plus brutalement? C'est peut-être plus conceptuel que scientifique, mais il y a des éléments là-dessus. Il y a encore un peu de travail pour essayer de comprendre.
D'accord, merci beaucoup. Alors, docteur Bérard, peut-être une question qui s'adresse à vous. Comment aider le patient contre sa volonté ?
Alors, si j'avais la réponse toute faite. Alors, ce qui est effectivement, alors il faut ruser, hein, et il faut aussi parfois changer le vocabulaire quand on s'adresse à lui. Je vous donnais l'exemple ce matin d'une dame que je voyais qui avait déjà des troubles assez importants et à qui il fallait interdire de conduire. Et cette dame était vraiment dans l'opposition et c'est une dame qui a toujours été extrêmement sérieuse. Et donc je lui ai dit que moi personnellement je lui faisais complètement confiance, mais par contre que je ne faisais pas confiance à sa mémoire. Et donc ça, elle l'a entendu. Et donc, elle a compris qu'effectivement, sa mémoire était défaillante, que ce n'était pas de sa faute à elle, en fait. Et face aussi aux personnes qui parfois nous disent « oui, mais moi, je vais bien », et tout ça, on regarde au niveau des tests, par exemple, et on regarde et on dit « mais voyez, regardez par rapport à quelqu'un qui a le même âge que vous, qui est allé à l'école comme vous, c'est moins bien. » Parce que je pense qu'il faut aussi valoriser le narcissisme de la personne et ne pas l'enfoncer, et que si elle n'est pas en capacité d'entendre pour tout un tas de raisons, je ne vois pas qui je suis, moi, pour lui asséner ça. Donc j'essaye de trouver un autre vocabulaire qui pourra être entendu. Et après, je leur dis, mais de toute façon, que même si vous ne pensez pas être malade dans ces cas-là, s'il y a des difficultés légères, eh bien, peut-être que c'est maintenant qu'il faut qu'on les prenne en main et que c'est peut-être maintenant qu'on va essayer, par exemple, de l'hôpital de jour ou de l'orthophonie, par exemple. Il faut essayer de trouver un vocabulaire pour essayer de convaincre la personne. Et puis, ben, parfois, malheureusement, malgré tout ça, ça ne fonctionne pas.
Alors ça me permet de rebondir sur une question, vous ne parlez quasiment pas du rôle des orthophonistes, est-ce qu'on peut en dire un petit mot ?
Alors moi je travaille beaucoup, beaucoup, je pense que David aussi, monsieur Dubois aussi avec les orthophonistes, là c'était un peu compliqué d'en parler dans les troubles psychocomportementaux, mais la prise en charge orthophonique est une prise en charge que l'on va proposer dès les premiers symptômes, parce qu'évidemment, et on l'explique aux personnes, alors moi je suis en gériatrie, aux personnes âgées qui viennent me consulter, je leur dis l'orthophoniste n'est pas là que pour les aisements des enfants ou les bégaiements, elles sont là aussi pour prendre en charge, et ça doit faire partie du projet de soins personnalisé, et des personnes qui vont vous dire qu'elles n'en voient pas l'intérêt et d'autres personnes qui vont adhérer complètement. Donc non, la prise en charge orthophonique est essentielle.
On a une question sur comment mieux sensibiliser les médecins traitants à la maladie d'Alzheimer. Notamment s'il y a des troubles qui sont indiqués depuis plus de 10 ans.
Vaste sujet. On est conscient que le parcours de soins optimisé passera par le médecin traitant. Le problème, c'est que les médecins traitants, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans le débat, ne voient pas l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à identifier précocement ces patients, pour la raison très simple, c'est que justement les médicaments efficaces ne sont pas encore sur le marché. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que ma première diapositive avait été un peu escamotée, mais j'aurais quand même vous dire un mot sur le fait qu'il y a quand même des médicaments symptomatiques, vous avez compris la différence, il y a quand même des médicaments qui jouent sur les symptômes de façon très modeste, mais de façon prouvée, de façon formellement établie par des études bien conduites. Donc il y a une perte de chance à ne pas donner ces médicaments. Alors ces médicaments ont été discrédités justement auprès des médecins généralistes pour un certain nombre de raisons, et parce que quand ils sont prescrits chez des patients très âgés, ils peuvent donner des effets secondaires, et à ce moment-là, comme l'effet, je vous l'ai dit, est quand même modeste, et que ça expose à des petits inconvénients, ça ralentit la fréquence cardiaque, ça peut donner des troubles digestifs, etc. Finalement, ces médicaments n'ont pas très bonne presse. Mais en réalité, les neurologues que nous sommes, je pense dans les consultations de mémoire aussi, je crois que vous devez le prescrire. Et sachez que ces médicaments ont été, pour des raisons complexes, là aussi, je ne vais pas rentrer dans un long débat, mais ont été déremboursés par le ministère de la Santé. Et ça, c'est une... On est désolé de cela parce que, d'abord, ça jette le discrédit sur ces médicaments et, deuxièmement, ça oblige les familles à les acheter eux-mêmes quand les médecins les recommandent, ce qui est notre cas. Je pense que, David, aussi, tu dois le recommander. Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette situation qui est un peu particulière. Voilà.
Alors une question sur est-ce qu'il y a plus de risques, en tout cas un risque plus fréquent chez une personne qui a une trisomie 21? C'est peut-être pour vous, professeur Vallon.
Alors, merci de la question. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée avait justement éventuellement tiqué sur le fait que le gène APP est situé sur le chromosome 21, mais effectivement, c'est une très légitime question, puisque oui, étant donné que la trisomie 21 revient à avoir une copie complète ou en grande partie du chromosome 21 en plus, et que donc le gène APP est situé sur le chromosome 21, on retrouve une situation qui est celle d'une duplication d'APP. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des trisomiques 21 qui vivent jusqu'à 50 ans et au-delà développent une maladie d'Alzheimer, et de même manière que développerait une maladie d'Alzheimer d'un sujet avec une duplication du gène APP. Alors, la trisomie 1, c'est plus rare. Et puis, toute la problématique, c'est la localisation par rapport au gène de la précine 1. Et pour l'instant, le gène de la précine 1, il n'est concerné que par des mutations ponctuelles et pas par des duplications. Parce que le fait d'augmenter l'activité de la précine 1 n'est pas la source de la maladie d'Alzheimer. C'est le fait de modifier son site d'action sur la jonction avec APP. Et donc, a priori, ça ne devrait pas produire de maladie d'Alzheimer. Mais bon. C'est une question qui est tout à fait légitime.
Alors, peut-être une question encore pour vous, enfin les trois dernières questions. Alors, l'annonce du diagnostic dans les cas de forme génétique n'engendre-t-elle pas une fracture psychologique, et pourquoi augmenter les répercussions et l'apparition de la maladie?
Je pourrais juste répéter le début de la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir un...
L'annonce du diagnostic dans le cas de forme génétique n'engendre-t-elle pas une fracture psychologique, et pourquoi augmenter les répercussions et l'apparition de la maladie? Je ne sais pas si la personne veut...
Je vous montrerai à la première partie. L'annonce d'une maladie d'Alzheimer, on va mettre de côté pour l'instant l'aspect génétique, elle est toujours difficile. Parce qu'elle demande du temps, il faut vraiment prendre le temps nécessaire, et parfois il arrive de devoir faire une annonce très progressive, c'est-à-dire sur plusieurs consultations, ça m'est arrivé, c'est pas fréquent mais ça m'est arrivé, pour permettre d'aborder successivement les différents aspects qui ont conduit à ce diagnostic. L'aspect génétique, finalement, il vient dans un second temps. D'abord, généralement, on ne fait pas un diagnostic de maladie d'Alzheimer génétique d'emblée. On fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on évoque la possibilité que ça soit génétique, puisque nous, en tant que généticiens, enfin du côté des généticiens, je ne suis pas généticien, je suis neurologue, mais quand je travaille au laboratoire, j'ai besoin de savoir si on parle bien d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie. Donc, généralement, le diagnostic est déjà posé. Et on se pose ensuite la question de la génétique. Donc, évidemment, là, il y a un deuxième aspect, c'est d'aborder. Mais avant de faire le prélèvement, le patient et la famille savent vers quoi ils se tournent. Là, on parle bien de trouver un gène et de potentiellement savoir si d'autres personnes dans la famille sont concernées. Et ça, c'est abordé dès le début. C'est-à-dire que, et si jamais j'avais un frein exprimé par le patient ou la famille en me disant « Non, moi, je ne veux pas savoir si je peux potentiellement avoir transmis quoi que ce soit à mes enfants », c'est très rare, mais ça arrive. À ce moment-là, je ne fais pas de prélèvement. Parce que l'objectif de la stratégie, c'est d'identifier pour ensuite proposer aux familles de pouvoir le faire. C'est un tort probablement, mais c'est une situation extrêmement complexe à gérer. Sinon, si on va outre, l'analyse génétique suppose, et même pas suppose, impose un consentement signé de la part du patient.
On va prendre une avant-dernière question. Comment faire la différence entre certains marqueurs dus à la sénilité et ceux qui sont dus à la maladie ? Question assez complexe.
Alors, si vous voulez, le vieillissement est un phénomène naturel. C'est un phénomène qui est étudié dans toutes ses composantes, à la fois cognitives, biologiques, et c'est bien connu. Et la maladie va se distinguer du vieillissement justement parce que ces marqueurs dont je viens de parler vont être significativement différents par rapport aux personnes de même âge. Par exemple, le vieillissement cognitif devient pathologique quand il y a une différence significative dans les scores, dans les performances par rapport à des sujets de même âge. De la même façon, quand on dose ces biomarqueurs dont on vous a parlé tout à l'heure du liquide céphalo-rachidien, on va comparer le taux et la concentration des marqueurs par rapport à ceux d'une personne de même âge. Et c'est lorsqu'il y a une différence significative qu'on va dire ça n'est pas dû à l'âge, c'est dû à la maladie. De la même façon, le dépôt des lésions que je vous ai montré en PET scan, on va le comparer à des sujets de même âge, et s'il y a une augmentation des lésions qui est significative par rapport au sujet de même âge, on dira c'est pathologique, etc. Donc si vous voulez, on connaît les marqueurs liés à l'âge et on définit les marqueurs de la pathologie par rapport aux marqueurs liés à l'âge et on tient compte, on le corrige à l'âge, on le corrige à un certain nombre de facteurs, les facteurs génétiques, les facteurs de sexe ratio, les facteurs d'éducation, justement, on en a parlé tout à l'heure. Et tout ça, on a des agapes qui nous permettent de corriger et de dire ça, c'est pathologique ou ça, c'est dans les limites de la normale.
Merci. Et la dernière question, petite question chiffre, quel est le pourcentage des soignants en EHPAD qui sont formés pour la maladie d'Alzheimer ?
Alors j'espère de plus en plus nombreux. C'est difficile de vous donner des chiffres, ça dépend des établissements. Moi je participe sur Rouen à la formation des assistants de soins en gérontologie depuis plus de 10 ans maintenant. J'intervenais sur deux types d'établissements qui proposaient cette formation, qui étaient l'IDS à Canteleu et la Croix-Rouge à Bois-Guillaume. L'IDS à Canteleu a fait très peu de formations, je crois que j'ai dû participer à 3 et à chaque année... ils ont tenté de reconduire la formation et c'est la Croix-Rouge en règle générale qui forme les soignants sur la région et on voit quand même de plus en plus de soignants dans les établissements au fur et à mesure arriver, des soignants d'EHPAD, des soignants de SIAD, des soignants également de services hospitaliers désormais. Je voulais regarder justement un petit peu les statistiques, mais je pense qu'en 10 ans, enfin même moins que ça, on avait déjà formé plus de 400 soignants, et je pense que maintenant on doit être à 600, voilà. Je pense à peu près, oui, au moins. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois, merci au public pour vos questions. Merci.